puisque nous sommes en compagnie de deux enseignants, Lucas Chancel, économiste qui publie Insoutenable inégalité aux éditions des Petits Matins, et le philosophe Francis Wolff qui publie Trois utopies contemporaines chez Fayard. Mais on va leur poser la question de savoir où en est la contestation étudiante et quel regard ils portent, puisque nous parlions des idées pour la gauche, que ces slogans que vous nous avez fait entendre, Frédéric Saïs, se situaient plutôt à gauche. Francis Wolff, votre point de vue à cet égard sur l'état du monde étudiant, sur la manière dont celui-ci peut ou non porter ses utopies.
Je crois que le mouvement estudiantin est divers, c'est évident. Il est sans doute un peu essoufflé. Le syndicalisme qui lutte contre l'entrée à l'université aujourd'hui s'essouffle, à mon avis, pour la raison suivante. C'est que derrière l'idée que l'université en France n'est pas sélective, on a en fait un des pays les plus sélectifs du monde. On oublie de dire que l'entrée à l'université n'est ouverte que parce que la plupart des autres filières sont extrêmement fermées. Et je ne parle pas simplement des classes préparatoires, je parle des BTS, je parle des IUT. Tout cela est extrêmement sélectif. Mmh. Et c'est tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit au niveau professionnalisant ou au niveau des études très longues vers les classes préparatoires, les grandes écoles, qui n'ont pas pu rentrer dans ces filières, qui rentrent en université. Donc il faut bien se rendre compte que derrière le mythe de l'université ouverte, on a un enseignement supérieur extrêmement sélectif.
Et par rapport à l'idée d'Emmanuel Macron de célébrer mai 68 ?
Bah, écoutez, d'une certaine manière, on ne peut pas être contre à une époque où la droite fait tout pour enterrer ce qu'elle estime être la pensée 68 et son héritage.
Maintenant, bah, il y a si tellement de façons. Autre, si on considère que la pensée 68, comme vous venez de le dire, est une série de schémas réducteurs sur le réel. Enfin, je pense au livre notamment de Ferry et Renaud.
Oui, il y a chacun a son mai 68, si vous voulez. Ce qui a marqué quand même mai 68, au-delà des slogans faciles, des affiches des beaux-arts, etc., c'était quand même l'union, comme on disait, dans les luttes de la classe ouvrière et des étudiants et des intellectuels. Or, on a le sentiment que ce que l'on retient aujourd'hui de mai 68, c'était une sorte de mouvement libertaire de libération dont les héritiers sont connus, les mouvements féministes, les mouvements d'égalité homosexuelle, etc. Mais on oublie que ça a été aussi un très grand mouvement d'occupation des usines. Et cela, évidemment, c'est ce qui manque à la gauche. Pourquoi ? Parce que les solidarités sociales se sont effondrées.
Lucas Chancel, vous qui considérez qu'il faudrait que la gauche associe à la fois un discours et une lutte contre les inégalités et une préoccupation environnementale, quand vous parlez par exemple de contestation estudiantine, de militantisme estudiantin, quand vous êtes au contact de vos étudiants, qu'est-ce que vous percevez ?
Ce que je perçois, c'est peut-être d'abord une nouvelle manière de s'engager, de lutter pour de nombreux étudiants, avec peut-être un rejet, un refus des modes de structuration politique.
Ça, c'est le micro qui a lutté, il est tombé, ça y est, il est revenu à sa place.
Rejet de certaines formes de hiérarchie, notamment dans les mouvements syndicaux. Et ça débouche sur des mouvements collectifs comme Nuit Debout, qui vont pas forcément avoir le même impact politique qu'une mobilisation à la CPE, mais qui sont pas nécessairement moins opérants. C'est-à-dire qu'ils vont aussi permettre à toutes les personnes qui participent à Nuit Debout de se poser des questions qui se poseraient pas nécessairement dans le cadre d'un mouvement qui est plus hiérarchique, qui est plus structuré. Je pense qu'il faut allier les deux. Il faut allier Nuit Debout avec des mouvements qui sont plus structurés. Et c'est ça l'un des enjeux aujourd'hui pour les étudiants. Mais pour revenir sur la question de l'université, s'il y a bien un enjeu aujourd'hui, c'est quand même la baisse du budget par étudiant en France qui perd 10 points en 10 ans. Et ça, c'est un fait majeur, considérable. D'ailleurs, on n'entend absolument pas l'Union européenne parler de ça, alors que l'un des idéaux de l'Union européenne, qui est tout à fait louable, qui est de construire une économie de la connaissance, pourquoi est-ce que l'Union européenne ne dit rien à la France quand son budget par étudiant décroît de 10 points ? alors que l'Union européenne est constamment en train de faire la leçon sur tel déficit budgétaire, sur telle règle fiscale. Donc là, on a un vrai enjeu et les étudiants doivent aussi être porteurs de ce message.
Francis Wolff, lorsque l'on évoquait tout à l'heure la question de la gauche et des utopies, vous avez dit finalement qu'il y avait la sphère du bien qui était aujourd'hui facilement isolée. Est-ce que vous pourriez là aussi poursuivre votre raisonnement sur la droite maintenant, car après tout on pourrait considérer aussi que la droite est quelque peu démobilisée, on le voit avec les Républicains aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron s'est saisi d'une partie du programme économique de cette droite-là. Est-ce que les idéaux de la droite par rapport à cette échelle du bien, par rapport aux utopies que vous analysez, est-ce que cette droite-là est situable ?
Alors, tout dépend si on parle à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Je crois qu'on peut dire qu'en gros, la droite se porte pas mal, merci. Peut-être qu'elle est, laminée circonstanciellement sur le plan électoral. Mais sur le plan des idées ou de ce qu'on peut appeler idéologique, elle se porte fort bien. Elle a réussi à imposer, non seulement en France, mais un peu partout, ses thèmes de prédilection. Elle a imposé le thème de l'identité, jusqu'au thème de la pureté, qui est le grand thème de la droite la plus extrême. Il s'impose maintenant dans la droite ordinaire. Les prestations sociales, en France désormais, ça s'appelle l'assistanat. La question de l'accueil des réfugiés, ne serait-ce qu'au sens de la Convention de Genève, ça s'appelle l'envahissement. Ce qui est frappant en France, comme dans le monde entier, c'est qu'elle a réussi à imposer l'idée que la sécurité viendra en érigeant des frontières, en érigeant des murs. Donc, si c'est pas un triomphe des idées de la droite, les idées que soutiennent aujourd'hui la droite de gouvernement sont ceux que n'osait pas soutenir l'extrême droite il y a 10 ans.
Mais vous trouvez, parce que la question de l'identité, on la trouve dans le discours évidemment de Laurent Wauquiez, dans celui du Front National, ensuite, au-delà de ça, où la voyez-vous, cette question de l'identité ?
Je la vois...
Parce que la position hégémonique de la droite, si celle-ci existait, et cela signifierait que la question de l'identité a, par exemple, été au cœur de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Non, l'élection présidentielle a obéi à une logique interne très compliquée, circonstancielle, etc. N'empêche qu'on oublie quand même le score qu'a fait le Front National au premier tour. On oublie que qu'on n'arrive plus à faire des mobilisations de classe, mais on arrive à faire des mobilisations. Alors, je ne vais pas dire que c'est la droite, mais qu'est-ce qui se passe en Catalogne, puisqu'il faut en dire quand même un mot, c'est quand même une mobilisation extraordinaire autour de la question qui sommes-nous, autour de la question de l'identité.
Mais ces gens-là s'estiment, alors peut-être, contrairement à ce que vous pensez, vous, Francis Wolff, mais... Eux, ils considèrent que leur mobilisation est plutôt une mobilisation de gauche, puisqu'elle consiste...
Puigdemont n'est pas particulièrement un homme de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a en effet un groupuscule d'une dizaine de personnes qui sont des séparatistes parce qu'ils vivent sur une idéologie révolutionnaire. Non, mais ce qui est fascinant, c'est que cette mobilisation extraordinaire se font autour de la question qui sommes-nous ? Nous sommes purement des Catalans, nous sommes des vrais Catalans, nous remontons à Milan, etc. Et ça me paraît, en tant que thème, maintenant, le fait que ce soit une sécession des riches contre des pauvres, ou que ce soit...
Une révolte fiscale.
Une révolte fiscale, tout ça alimente l'idée que c'est à droite. Mais ce qui me semble le plus frappant, c'est qu'on arrive à mobiliser un peuple divisé, hein, le peuple catalan, autour d'une question qui est celle de l'identité, qui, à mon avis, est tout le contraire de la question de la gauche, qui est la question de l'égalité.
Lucas Chancel, justement, à ce sujet, puisque vous évoquez la question des inégalités, et Francis Wolff, en essayant de qualifier ce qui se passe en Catalogne, parlait d'une révolte fiscale, en tout cas d'une révolte de gens qui estiment payer trop par rapport à l'analyse des inégalités contemporaines. Est-ce un mouvement qui, selon vous, fait sens ?
Il me semble que le mouvement de refus des inégalités... Enfin, déjà, pour répondre à la question précédente sur la droite, je vais tout à fait dans le sens de Francis Wolff, avec l'idée que la droite a réussi à imposer tout un tas de métaphores dans le débat public, que la gauche... ou en tout cas une partie de la gauche de gouvernement s'est mise à récupérer, à réutiliser, et c'est là que la bataille, en tout cas l'une des batailles des idées, a été perdue. Un exemple concret, qu'on a vu le même mouvement aux États-Unis, avec l'introduction dans le débat public de cette métaphore du fardeau fiscal, tax burden. On passe d'une idée de juste contribution, ou de justice sociale, à cette métaphore du fardeau fiscal. Et ça, en fait, c'est un mouvement qui a été pensé, c'est une stratégie qui a été exécutée par des think tanks conservateurs américains. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour trouver de nouvelles métaphores. Donc la droite américaine a beaucoup bossé, aux années 70, années 80, pour arriver dans le débat public avec de nouveaux mots. Ils se sont dit que ces mots-là vont avoir un impact dans le débat public. Et c'est le politologue américain George Lakoff qui raconte ça très bien. Dans un ouvrage intitulé « Ne pensez pas à un éléphant ». Cet ouvrage s'intitule « Ne pensez pas à un éléphant » puisque si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant », la première chose à laquelle vous pensez, c'est à un éléphant. Et c'est pour révéler l'idée que notre cerveau fonctionne avec des images, avec des métaphores, et qu'une fois qu'on arrive à imposer une image dans le débat public, c'est très difficile de sortir de cette image. Et quand le ministre de l'économie de François Hollande réutilise en 2015 ou en 2014 l'expression « ras-le-bol fiscal », il a perdu. Il a perdu la bataille de gauche qui consiste à dire... Là, ce dont on parle, c'est de juste contribution à l'effort collectif. Ce n'est pas de fardeau fiscal. Et donc, la droite, en tout cas, a gagné sur ce terrain-là, mais peut-être qu'elle est en train de perdre à nouveau, dans le sens où on a quand même l'impression que, avec en tout cas la dernière campagne présidentielle, que dans l'opposition, ils n'ont pas vraiment bossé. On ne voit pas vraiment quelles étaient les nouvelles propositions. On a un peu l'impression qu'ils sont... endormi pendant 5 ans d'opposition. Donc la droite a aussi à se renouveler, mais il faut peut-être quand même se rappeler que bon, une partie de la droite est au gouvernement aujourd'hui. Donc une partie de la droite est au pouvoir et est en train de mettre en œuvre un agenda qui est la poursuite de l'agenda de ce mythe de ruissellement économique dont on parlait tout à l'heure, de ce mythe de finalement les accords commerciaux sont des accords qui nous permettent d'accroître notre croissance, d'accroître notre bien-être. Et là, bon, Emmanuel Macron est dans la continuité pure des deux gouvernements précédents, avec le CETA notamment, où en fait, on aurait pu utiliser, et c'est peut-être le rôle de la gauche, d'utiliser cette fantastique arme qu'a l'Europe, qui est son marché unique. C'est une arme, c'est l'un des premiers marchés du monde, c'est une arme exceptionnelle qui pourrait être utilisée au service... de la réalisation d'objectifs environnementaux ou sociaux. On aurait pu dire aux Canadiens, écoutez, on va ouvrir de nouveaux pans de notre marché si vous réalisez des objectifs climatiques ambitieux. Et au contraire de cela, on se tire une balle dans le pied en ouvrant notre marché sans à peu près rien en contrepartie.
Il y a, Francis Wolff, dans votre livre, une analyse des utopies. Et justement, lorsqu'on voit le gouvernement qui est aujourd'hui aux commandes en France, Lucas Chancel vient de considérer que pour une partie, c'était un gouvernement de droite. Est-ce que vous trouvez que c'est un gouvernement qui met un point d'honneur justement à gouverner sans utopie? Emmanuel Macron a dit, par exemple, en Guyane, qu'il n'était pas le Père Noël. Est-ce que l'ensemble de ce discours consiste à dire qu'il faut être pragmatique?
Alors c'est un discours qui probablement... cherche avant tout le pragmatisme, qui cherche à, selon son syntagme préféré, à dire « et en même temps », donc « ni ni » ou « et ». Ce qui me frappe, c'est que par rapport aux idées que je peux avancer dans ce livre, c'est que, évidemment, c'est pas un apôtre de l'égalité, ce n'est pas un apôtre de la justice sociale, du moins pour l'instant, mais sur le plan de l'ouverture internationale, il y a un nouveau discours, peut-être que n'a pas su tenir la gauche par rapport à l'Europe, peut-être que pourquoi la gauche n'a pas su le tenir, là encore, par crainte de faire monter le Front National. Et j'ai dit que c'était la plus stupide des stratégies, puisque à chaque fois qu'on n'osait pas s'opposer au Front National, on lui laissait le terrain pour qu'il développe ses idées sans lui opposer jamais quoi que ce soit.
Et alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, la gauche, si elle ne s'était pas souciée, comme vous dites, de faire monter le Front National, ou plus exactement, si elle n'avait pas eu peur?
Du point de vue international, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'accueil des réfugiés...
C'est ce que vous appelez l'utopie cosmopolite.
Voilà, c'est une partie, c'est le premier pas de l'utopie cosmopolite, c'est-à-dire, c'est simplement la politique d'accueil qui est celle qui revient à ces pays qui se sont associés pour construire l'Union européenne. Je rappelle que la plus incroyable des utopies s'est construite sous nos yeux après 1945. L'Europe sort de deux guerres mondiales et de dizaines de millions de morts et décide de faire ce qui est la chose la plus utopique, de construire l'union autour de la France et de l'Allemagne. On ne se rend pas compte à quel point ce qu'on appelle aujourd'hui des utopies n'est rien par rapport à ce qui a pu être cette utopie. Je pense que la gauche aurait dû continuer d'être porteur de ce projet. Bien entendu, il y a des circonstances, il y a les frontières orientales de l'Europe, il y a les peuples qui réclament des murs lorsque il faudrait au contraire les abattre. Je suis bien d'accord, mais il faut avoir le courage en politique, consiste aussi à défendre ces idées qui sont les idées cosmopolites qui ont toujours fait partie de la tradition de la gauche.
Mais alors dans ces conditions, pourquoi est-ce Angela Merkel, qui n'est pas précisément une femme de gauche, qui a défendu en Europe cette utopie cosmopolitique, comme vous l'appelez, pour partie. En tout cas, c'est elle qui a accueilli les réfugiés, pas la gauche française,
tout
ni
à
même
fait.
Le honte, gouvernement actuel.
Honte à la gauche française, oui.
Mais en dehors de ça...
Alors, je passe rapidement sur le fait qu'on a dit qu'il y avait des raisons démographiques, il manque de... Bon.
Mais c'est tous les arguments qu'elle a invoqués.
Oui, mais il y avait aussi, je crois, un argument très fort quand vous allez en Allemagne et que vous rendez compte à quel point ce peuple, les générations actuelles sont accablées par le poids de la culpabilité du génocide et du nazisme, et qu'il y avait là pour le peuple allemand quelque chose d'extraordinaire de passer pour enfin laver cette image d'une Allemagne rejetant l'étranger vivant dans le culte de sa pureté, c'était quelque chose de très important pour une grande partie du peuple allemand. Et il y avait aussi, probablement, de la part de Madame Merkel, une espèce de souci moraliste, humaniste, très banal. Donc il y a eu ce mélange de ces trois composants, pendant que la France, elle, jouait la sûreté, apparemment, en tout cas la démagogie.
Francis Wolff, il y a eu aussi une critique adressée à Angela Merkel dans les rangs de la gauche qui consistait à dire « Le patronat a besoin d'une armée de réserve. Cette armée de réserve sera fournie par les réfugiés qui vont exercer une pression à la baisse sur les salaires. » Et dans ce cas-là, ironie de l'histoire, votre utopie cosmopolite qui consiste en partie à accueillir des réfugiés, elle pourrait être perçue comme une utopie libérale, comme une utopie relevant du sans-frontiérisme, comme cela a été dit de manière très péjorative.
Eh bien écoutez, si c'est un argument pour montrer qu'il ne faut pas accueillir des réfugiés, je veux bien l'entendre de cette manière. Non, je pense que on peut toujours interpréter de façon cynique des gestes qui avaient leur part d'intérêt, bien entendu, mais dans lequel je pense qu'il y avait des raisons morales profondes qui tiennent à l'histoire du peuple allemand et qui tiennent au poids de cette histoire sur le moral. Si vous voulez, quand vous allez... On a le sentiment quand même d'une France qui s'est repliée sur elle-même autour de ses revendications qui sont très souvent légitimes, mais dans lesquelles on n'a pas eu le sentiment d'un mouvement de solidarité et d'accueil. Je n'ai pas entendu, moi, de très grands appels d'intellectuels à l'ouverture des frontières à ce moment-là. Je ne l'ai pas entendu. Ce que nous avons entendu, c'est en effet des initiatives individuelles, des ONG, etc. Et rien de ce qui ressemble à un mouvement de mobilisation.
Lucas Chancel, lorsqu'il est question d'inégalité, il est souvent question de morale, pour reprendre le terme qu'utilisait Francis Wolff. Et dans votre livre, Insoutenable inégalité, vous montrez comment on peut aussi dissocier le discours des inégalités sur le discours de la morale en disant qu'une société plus égalitaire, c'est pas seulement une société meilleure du point de vue donc des valeurs, c'est aussi une société qui fonctionne mieux. Expliquez-nous pourquoi.
Tout à fait. Je pense que c'est l'une des évolutions dans la pensée collective, dans la pensée aussi d'institutions internationales qui jusque-là n'étaient pas particulièrement connues pour leur critique des inégalités. Je pense au FMI, je pense à la Banque mondiale, et qui évoluent sur ce terrain-là, effectivement, parce qu'il y a de plus en plus d'études en sciences politiques, en économie, en épidémiologie, en sciences dans l'environnement, qui montrent qu'une société inégalitaire, c'est une société qui fonctionne mal. Sur le plan économique, les inégalités, il a été démontré par des études empiriques en économie comportementale que les inégalités créent une désincitation au travail et réduisent la productivité des entreprises. Les inégalités, c'est aussi finalement des investissements qui se font. Une société inégalitaire n'investit pas dans les biens publics qui, à moyen terme, créent de la croissance, qui génèrent de l'activité. Donc sur le plan économique, c'est négatif. Sur le plan politique, on en a déjà parlé tout à l'heure avec cette sclérose du débat public. Sur le plan environnemental, les inégalités peuvent aussi aboutir à ce que certains ont appelé une course vers le haut, où en fait les plus aisés impriment un certain rythme de consommation ou un certain niveau de consommation qui n'est pas soutenable, et les classes plus modestes vont vouloir caler leur niveau de vie, leurs objectifs, leurs désirs sur celui des plus aisés, et donc tout ça entraîne une machine qui n'est pas soutenable. Et enfin sur les
pas
questions
soutenable du point de vue écologique.
Du point de vue écologique. Et enfin sur les questions de santé publique, on a de plus en plus d'études en épidémiologie qui montrent que les sociétés inégalitaires, par le canal du stress, à la fois chez les plus modestes, mais aussi chez les plus riches, même si les plus modestes sont plus touchés, mais ce sont des sociétés qui sont plus malades. Et on voit ça sur des critères très objectifs, comme le taux d'obésité, comme des maladies chroniques, qui sont davantage développées dans les sociétés plus inégalitaires. Donc là, on a tout un tas d'arguments objectifs qui effectivement décale la question. Il y a la question éthique et il y a aussi cette question de bon fonctionnement de la société dans son ensemble. Et on voit une évolution sur ces questions d'acteurs qui n'étaient jusque-là pas forcément très enclins à vouloir réduire les inégalités.
Francis Wolff, un mot de conclusion sur les derniers conseils à donner à la gauche aujourd'hui, à la gauche dite de gouvernement, mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette gauche de gouvernement selon vous ?
Il y en a plusieurs. Ce qu'on peut appeler la gauche de gouvernement, c'est une simple définition de nom, c'est celle qui ne refuse pas de gouverner a priori et qui ne se contente pas d'agiter des idées d'opposition parce que c'est plus facile.
Mais pourquoi ? Parce que pour vous, aujourd'hui, il y a une gauche qui ne veut pas gouverner en France ? Une partie de la gauche qui ne veut pas gouverner ?
Ce n'est pas qu'elle ne veut pas gouverner, c'est qu'elle elle ne se sent pas prête, je crois, à mettre dans des mesures concrètes les idées qui sont agitées. D'ailleurs, je pense que la gauche a besoin d'une cure de rajeunissement, de réflexion sur ce qui peut aujourd'hui nous mobiliser. Lutter contre les inégalités, c'est évidemment un mot d'ordre qui est évident et facile. En vue de quoi? Quel type de société voulons-nous atteindre? Est-ce l'égalité? Est-ce le commun? Est-ce la justice? Qu'est-ce que c'est que la justice sociale? Ces concepts ont besoin d'être retravaillés parce que l'absence d'inégalité, ça n'est pas forcément la justice. Et c'est surtout le sentiment d'injustice qui alimente les fractures fondamentales d'une société.
Un mot de conclusion, Lucas Chancel.
Je pense que effectivement la métamorphose que l'on doit opérer pour traiter à la fois la question environnementale et la question de l'injustice de plus en plus forte qui caractérise nos sociétés constitue un magnifique projet de société pour tout un tas de citoyens qui vont se reconnaître de gauche ou pas d'ailleurs. Et donc on a là, en tout cas, la matrice d'un nouveau logiciel politique qui est à la fois, c'est paradoxal parce que c'est à la fois une transformation profonde à effectuer mais qui est à portée de main puisqu'on voit dans plusieurs pays, à plusieurs échelles, déjà les solutions, en tout cas les germes des solutions, en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer dans mon ouvrage.
Francis Wolff, Trois utopies contemporaines chez Fayard, Lucas Chancel, Insoutenable, l'inégalité pour une justice sociale et environnementale, publié aux éditions des Petits Matins.